Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Salut tout le monde, merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite heure bimensuelle de pop culture sponsorisée par le magazine Focus Vive qui nous emploie. Giver Stratton qui se mouche à l'entame de l'émission, bon, ça commence très bien. Et oui, donc il y a Guy, hein, je vous présente l'équipe, chef de rien du tout, mais roi de nos nuits les plus torrides, sauf quand on se mouche le micro.
Mais c'est tout à fait naturel se moucher, pourquoi tu en parles comme si c'était quelque chose d'absolument catastrophique?
Non, mais bon, je me disais qu'il y avait peut-être des moments, tout ça. Enfin, voilà, je suis très corsetée dans mes principes, je devrais dire, je ne sais pas, enfin bref, mon éducation.
Je pourrais faire bien pire, hein.
C'est vrai, mais pas tout de suite. Alors il y a aussi Laurent Houbrex, chef des pages musique et roi du sac à dos. Et Isaline Parisiste, chef des pages livres et reine des putes à franges. Bonjour l'équipe.
Reine des putes à franges.
Ouais, bah un peu quand même.
Ah voilà, ok.
Enfin c'est la plus belle. Alors comme à chaque fois on papote des objets culturels dont on parle le plus en ce moment, c'est-à-dire Tom à la ferme, le nouveau film de Xavier Dolan, Everyday Robots, l'album solo de Damon Albarn, La fête de l'insignifiance, le dernier roman de Milan Kundera, ainsi que la dernière saison de Mad Men.
Tu viendras pas me dire quelqu'un que je joue plus comme ça, qu'il faut que j'aime ma mère, ok? T'es comme nous, t'es comme nous. Là, tu vas marcher prête.
Tom à la ferme, le dernier film de Xavier Dolan en salle, mais pas le dernier film de Xavier Dolan tout court, puisqu'on vient d'apprendre qu'il figurerait en compétition officielle lors du prochain festival de Cannes, avec un long métrage qui s'appelle Mommy. Corps sur une mer, évidemment. Xavier Dolan, c'est ce petit génie québécois, 20 ans lors de la sortie de son premier film, J'ai tué ma mère, 25 aujourd'hui. Entre les deux, il y a eu Les Amours imaginaires et Laurence Anyways, des films arty, gay-friendly, hein, si je puis dire, des bourrés d'effets assumés que pas mal de critiques aiment détester. Tom à la ferme est son film le plus sobre, le plus maîtrisé aussi. Il est peut-être un peu tôt pour parler de films de la maturité, mais on n'en est plus très loin. C'est un suspense hitchcockien que le Montréalais nous invite à vivre dans un bled paumé où il se rend, car c'est lui qui joue Tom. Tom qui va aux funérailles de son amant, dont la mère ignore tout de l'orientation sexuelle. Francis, le frère du défunt, va obliger Tom à mentir, à inventer une vie hétéro à son frère. Les menaces vont pleuvoir et les coups aussi, et pourtant Tom ne part pas alors que rien ne le retient. Ça aurait pu être un film sur l'homophobie, mais pour moi c'est plutôt un film sur le syndrome de Stockholm, ou au moins sur le cadre structurant, entre guillemets, qu'offre la violence, avec un petit jeu d'attraction-répulsion en toile de fond. J'ai beaucoup aimé ce film, malgré le mop Vileda que porte Xavier Dolan en guise de cheveux, et son petit côté tête à claque hipster. Guy, toi je pense que non. Toi, tu n'as rien.
Alors, c'est marrant parce qu'à un moment, il y a. Donc, Xavier... C'est Xavier Dolan alors ? Donc, c'est pas Xavier Dolan. Je pensais que c'est un francophone a priori, ce garçon. Pourquoi Dolan ?
Je sais pas. C'est peut-être Dolan. Appelle-le Dolan si tu veux.
Moi, je l'appellerais Dolan si tu veux.
D'accord. Oui, okay. Non, vas-y, je t'en prie.
À un moment, donc, tu parles de mob sur sa tête. Et à un moment où il est en train de balayer dans la ferme, il balaye l'espèce de paille comme ça. Et c'est l'impression qu'il a les mêmes cheveux que la paille qu'il est en train de balayer. C'est rigolo, ouais, ces cheveux.
Sorte de rappel visuel.
Oui, complètement. C'était dans la même couleur et tout. Non, je suis pas du tout rentré dans l'histoire. Mais alors là, pas du tout. Vraiment pas du tout. Je trouve que.
Mais t'aimes bien déjà Xavier Dolan.
Je connais absolument rien à son œuvre.
C'est le premier film de lui que tu vois.
C'est le premier film de lui que je vois. Donc je dois admettre totalement mon inculture par rapport au sujet. J'ai trouvé que c'était très 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 sérieux en fait, très très très, il y a une grosse intensité et qu'il y avait vraiment ça manquait un peu de, j'arrivais pas à trouver de l'air, j'arrivais pas à trouver de l'oxygène dans les premières minutes.
Il y a quand même 2-3 scènes un peu rigolotes, non ? Quand il explique les préférences sexuelles du fils et de sa copine.
Ouais, non, je sais, oui voilà, après, dire qu'il y a pas, enfin il y a forcément des qualités, je suis pas aveugle et je vois bien que c'est plutôt bien maîtrisé et qu'il y a une vraie intensité, etc. Mais je trouve que voilà, c'est un peu forcené dans les intentions et que et voilà, moi je suis pas rentré dedans vraiment, j'ai pas réussi à me laisser.
Mais tu es homophobe aussi. Hein.
Moi je suis homophobe, moi je pense que les homosexuels devraient globalement être parqués dans des camps. donc forcément, et c'est une première étape à la ferme déjà, si on pouvait tous les mettre. Mais non, mais je.
C'est-tu voilà. de blague ?
Oui, non, je ne suis pas homophobe.
Attention, deuxième degré.
Voilà, non, frère, j'ai pas compris. Voilà, complètement. Enfin, j'ai pas compris.
D'accord.
En fait. Pour moi, ça m'a paru insupportable de bout en bout. Et voilà. En plus, j'ai pas compris.
C'est quoi ? C'est le personnage principal qui te semble insupportable ou...
Non, franchement, j'ai pas accroché parce qu'il faut accrocher à l'intensité du truc parce que c'est vraiment très dark, ça te prend, ça avance et alors c'est triste et puis voilà, il y a de la violence et c'est très contenu comme ça et tout le monde se tient un peu comme ça, il y a des nerfs, enfin c'est un peu les nerfs sans être tout ça est très contenu et très intériorisé et voilà, moi je suis pas rentré dedans. Mais c'est sûrement un super film. Alors voilà, comme ça vous le savez. C'est comme je disais l'autre fois.
Tu n'aimes pas les huîtres.
C'est comme j'aime pas les huîtres. C'est exactement la même chose. J'aime pas les huîtres, mais je suppose qu'il y a plein de gens qui aiment les huîtres. Et ça doit être une bonne huître pour les gens qui aiment ça. Voilà.
Alors Isaline, est-ce que c'était une bonne huître pour toi ?
Alors j'aime les huîtres. En fait, c'est marrant parce que tout le monde a l'air de relever dans la presse un changement de cap très bienvenu dans la carrière de Xavier Dolan ou Dolan, soulignant un peu sa maturité et disant un peu ouf, Xavier Dolan ne fait plus enfin du Xavier Dolan. Alors, en fait, moi...
tu dis Dolan aussi, toi. Tout le monde dit Dolan, en fait.
Je peux dire Dolan, si tu veux.
Non, allez-y.
Or, il se fait que moi, j'aimais bien, en fait, Xavier Dolan d'avant. Enfin, j'ai revu les Amours imaginaires, là, très récemment, parce que les galeries offraient une mini-rétrospective Xavier Dolan. C'est une espèce de Jules et Jim bisexuel revisité dans un film mélo très clippé, comme ça, avec de la musique pop et des ralentis très assumés. Un film, moi, dans lequel je trouvais un vrai charme très apprêté, sans doute, mais un charme quand même. Mm-hmm. Une vraie fantaisie, une vraie personnalité. Alors ici, c'est vrai que sans doute Xavier Dolan change radicalement de propos, mais je pense qu'il reste assez personnel dans ce changement-là et il garde certaines de ses obsessions. Alors, il marque, c'est assez intéressant, la rupture dès les toutes premières images en fait, du film, dès le générique assez long, comme ça, le long d'une interminable route de campagne profonde, filmé d'un hélicoptère, comme ça.
Les moulins de Montclair.
Et très vite, voilà.
Avec
cette musique en fond. Et puis très vite, je trouve qu'il installe une ambiance comme ça, terreuse, grise, celle d'une ferme désertée, très inhospitalière, à l'atmosphère extrêmement pesante et qui va s'avérer de plus en plus anxiogène avec l'installation des personnages et de leurs interactions comme ça, assez viciées directement.
Il y a des veaux morts et tout ça qu'on traîne.
Oui, c'est quand même assez fort. Moi, on pourrait vraiment être dans un film américain, vous savez, les films américains white trash comme ça, avec voilà, les bouseux, les personnages intolérants, violents et très très sexués. Et hein, pour le coup, on pourrait, enfin, je pense qu'il y a des choses qui, il y a des liens qui peuvent être faits aussi avec En finir avec Eddie Bellegueule de
Louis.
Alors, je le disais, il garde quand même certaines de ses obsessions, hein, pour reprendre Les Amours imaginaires. C'est une histoire de manipulation amoureuse, en gros. Hein, c'était donc Dolan jouait un jeune gay qui tombait éperdument amoureux d'un garçon, une sorte d'Adonis comme ça au profil grec, et dont était aussi amoureuse sa meilleure amie. Donc, il rentrait comme ça dans une sorte de rivalité assez violente. Donc, c'était une histoire de torture, si pas physique, en tout cas sentimentale. Et ce principe du bourreau et de la victime, on le retrouve finalement dans Tom à la ferme, puisque il est toujours ici question d'être sous l'emprise d'un objet de fantasme. Et en l'occurrence, Dolan devient la victime du frère de son amant, qui est violemment homophobe, on l'a dit, et très ambigu dans sa violence et dans sa haine, avec un savant mélange quand même de répulsion et d'attirance dans certaines scènes qu'on sent qui peuvent un peu basculer.
C'est aussi un film sur le désir, quoi.
Complètement. Mmh. Et je trouve qu'il est très, très chargé de ça. Et c'est effectivement assez malsain à partir du moment où Dolan va accepter de jouer ce rôle de victime consentante. Tu parlais du syndrome de Stockholm, c'est exactement ça. Rappeler quand même aussi que c'est une pièce de théâtre à la base et que je trouve que ça se sent pas, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a quand même...
Oui, et pourtant, ça lui est souvent reproché dans la pièce, dans la presse, et je trouve vraiment que ça se sent pas du tout.
Moi, je trouve qu'il y a quand même une dynamique. Enfin, je trouve qu'il utilise bien les espaces, voilà, et que... Après, je trouve que ça reste quand même un film assez étrange, avec des ruptures de ton. Il y a des scènes quand même assez comiques, effectivement, autour de la table avec la mère. Et puis, il y a des moments presque parodiques dont on a abondamment parlé aussi, hein, la scène de la douche qui rappellerait quand même assez bien celle du psycho.
Ouais, mais il cite énormément. Hein.
Voilà, oui. Et puis il y a aussi des scènes effectivement plus inquiétantes, hyper soulignées par la musique quand même assez emphatique de Gabriel Yared, et des moments plus bizarres aussi comme ce tango qui se met à danser dans la grange avec le frère, où c'est une espèce de moment de grâce et de violence mêlée comme ça. Et je trouve qu'au final, on a l'impression que c'est un film qui peut-être n'atteint pas exactement sa cible, ou en tout cas ne tient pas toutes ses promesses. Peut-être c'est quand même encore assez brouillon, voilà. Même si c'est un film qui m'a par ailleurs tenu tout au long de ces 2 heures.
Moi, c'est un film qui me hante en fait, et qui continue à infuser plusieurs jours après le visionnement. Je sais pas si c'est ton cas, Laurent, parce qu'on en avait parlé l'autre jour.
On en avait parlé, je savais pas encore trop quoi en penser finalement. Et puis oui, ça décante et je me rends compte que ce que j'ai aimé finalement, ce que j'ai aimé dans le film, c'est exactement ce que Guy n'a pas aimé ou ce qu'il n'y a pas vu ou ce que moi j'ai vu. C'est l'humour, quoi. Je trouve qu'il y a énormément d'humour de second degré. Rien que le titre du film est drôle. Tom à la ferme, tu t'attends. Non, tu sais bien que ce ne sera pas ça, mais.
C'est pas Martine à la plage.
Oui, c'est ça, c'est Choupi et Martine à la plage ou un truc comme ça. Il y a plein, les références aussi à Hitchcock qui installe comme ça une espèce de second degré. Il y a des scènes vraiment drôles, des dialogues drôles. Donc moi c'est ça qui m'a un peu sauvé de l'atmosphère qui est, c'est vrai, très oppressante. Je m'attendais à un truc justement un peu souffreteux, un peu sec, un film à la Piala comme ça, un peu.
Ah non, il y a des mandales, il y a des patates de forain dans la gueule.
Tout
à fait,
Moi, vu mon âge vénérable et le cap que je m'apprête à franchir...
Il va avoir 40 ans.
Qu'est-ce qui va se passer
que,
tu vas avoir 40 ans?
Non, pas du tout. Ah. J'avoue que je craignais d'aller voir le film d'un petit con de 25 ans qui a déjà toute une filmographie derrière lui et qui est sûr de lui et qui sait... Voilà. Et c'est ça aussi, je trouve. Il y a un côté... hyper à l'aise, hyper libre, il fait un peu ce qu'il veut, mais ce qui pouvait être agaçant, moi je trouve, est au contraire extrêmement rafraîchissant. Et il y a un côté très pop aussi, qui fait que, c'est plutôt une bonne surprise, quoi.
Oui,
vraiment.
Oui, pour moi aussi.
Et puis depuis que je sais que ce garçon a par exemple doublé le Schtroumpf à lunettes.
Oui, c'est vrai. Et il jouait aussi la version dans Harry Potter.
Parce que ce gars...
Il fait du doublage pour vivre.
Ouais, pour vivre, je sais pas, mais en tout cas, il en fait, il a l'air d'aimer ça.
Ouais.
Et ça, je trouve, ça recadre aussi un peu le mec qu'on pourrait mettre dans une pose un peu autoriste, un peu prétentieuse comme ça, qui contrôle tout dans son film, qui s'occupe des costumes, qui s'occupe des dossiers de presse, qui a un côté complètement contrôle free comme ça, et qui peut en effet être agaçant, mais qui en même temps continue à faire du doublage, c'est lui qui a fait qui a doublé tous les le personnage de Ron
dans Harry Potter, c'est ça, la version québécoise, j'imagine.
Voilà. Et donc ça complète, ça nuance un peu la vision que moi je pouvais en avoir et que finalement le film montre aussi, où il a un côté en effet un peu auteur à l'européenne comme ça, un peu mais aussi
j'ai
le storytelling à l'américaine, quoi. Enfin c'est le propre, j'imagine, de la culture québécoise qui est entre les deux, et voilà, il exprime vraiment bien. Moi c'est ça qui m'a...
Et en plus il est relativement accessible puisqu'il est sur Twitter et qu'il répond à tous les tweets qu'on lui envoie, même les tweets d'insultes.
Mais il a l'air assez sensible à la critique.
Oui, et il a l'air assez fâché quand on n'aime pas son film, donc qu'il se rassure s'il nous entend.
Il a bien aimé.
Globalement, on a aimé. On va le côté. Moi, comme j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais lui mettre 8 sur 10 à ce film.
Ouais, moi
toi aussi. Guy.
Je vais lui mettre 6.
Oui.
Petit 6.
Voilà. Et Isaline.
Un 7.
D'accord. Et alors, dans les pages de Focus, Jean-François Pleugers, qui a aimé ce film, mais sans excès, on parle d'un changement de cap sensible dans le parcours de Xavier Dolan et d'un réalisateur qui connaît ses gammes, même si sa disposition narcissique finit par lasser. En tout cas, c'est ce que nous dit Jean-François. La fête de l'insignifiance, c'est le nom du dernier roman français de Milan Kundera, écrivain tchèque majeur, connu notamment pour son insoutenable légèreté de lettres. Il aime bien les titres qui donnent envie de fuir à toutes jambes. Ici, c'est un livre très court qu'il nous offre à 85 ans, 144 pages, très très difficile à pitcher, enfin peut-être que vous y arriverez. Disons qu'il s'agit d'hommes plutôt jeunes qui vont converger à un moment donné vers une même fête, vers un même cocktail, qui vont entre-temps se raconter des histoires, se remémorer des souvenirs. Il sera question de Mikhail Kalinin, qui donnera son nom à la ville de Kaliningrad et qui avait du mal à maîtriser sa vessie. On verra aussi apparaître une femme enceinte qui essaye de sauver son suicide et pas mal de trouvailles langagières très savoureuses comme les excusards, dont malheureusement, je dois vous dire que je suis, les excusards qui demandent pardon quand on leur marche sur les pieds, et qui, selon le personnage de Kundera, se déclare donc coupable. Et si tu te déclares coupable, tu encourages l'autre à continuer à t'injurier, à te dénoncer publiquement jusqu'à ta mort. C'est donc ça le problème de ma vie. Je suis une excusarde. Bref, ce livre plein de malice est un formidable foisonnement de citations à souligner. Je souligne plein de choses. Moi, je l'ai trouvé extrêmement savoureux. Isaline, ton avis, c'est qu'on ne peut pas ne pas aimer ce bouquin.
Ben, en tout cas, c'est effectivement une surprise aussi. Et c'est assez jubilatoire de relire Kundera en sachant que voilà, aujourd'hui, il a 85 ans et qu'il avait quand même déclaré il y a 10 ans qu'il n'écrirait plus.
Ah oui.
Du coup, Gallimard avait sorti ses œuvres complètes dans la Pléiade, qui est quand même une consécration pour un écrivain vivant, en indiquant qu'il s'agissait de ses œuvres complètes. Surprise, voilà, il ressort un petit livre. Ça n'a pas dû plaire, évidemment, dans les hautes sphères de sa maison d'édition. Et c'est vraiment la sortie d'un silence et l'arrivée d'un petit livre comme ça, effectivement une petite centaine de pages, au vrai charme kaléidoscopique comme ça. C'est un des livres sans doute les plus malicieux, les plus juvéniles, les plus printaniers qui m'aient été donné de lire, et ça vient d'un bonhomme de 85 ans.
Est-ce que quelqu'un a vu le dernier Alain René ici?
Non.
Alors, ouais, j'allais en parler.
Oui, il y a des ponts liens, à jeter.
C'est, comme ça, cette petite comédie humaine à quelques acteurs dans un décor de théâtre assez dépouillé, et finalement une scène relativement abstraite aussi dans le roman, qui se contenterait de quelques objets indispensables à l'action. Et effectivement, deux œuvres habitées par une grande créativité à partir de cette grande humilité aussi. C'est vrai qu'il y a des liens tout à fait dans les deux œuvres. Alors, évidemment, Kundera, c'est une personnalité assez singulière dans le monde des lettres. Hein. Il ne donne plus d'interviews depuis 1985, je crois, depuis que ses propos ont été déformés.
Heureux homme.
Dans un papier aux États-Unis. Et de toute façon, en fait, sa grande idée à Kundera, c'est qu'un écrivain, un romancier doit disparaître derrière son œuvre, et donc il a toujours, par exemple, préféré faire des petits dessins un peu rigolos que de commenter son œuvre. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique puisque lors de son entrée dans l'édition de la Pléiade, il y a une absence complète d'appareil critique dans son édition, ce qui est quand même une des marques de cette prestigieuse collection. Une manière de dire sans doute que l'œuvre de Kundera se suffit à elle-même et que c'est un romancier, un écrivain qui ne veut être que romancier, qui ne veut être que ça, quoi. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé, effectivement, ce dernier livre. Ça commence comme ça sur plusieurs existences qui se croisent, quatre amis, des petites scénettes, des suites de micro-romans. On est au jardin du Luxembourg, comme ça, entre deux statues. Il y a des personnages qui arrivent et qui se croisent. Ça commence par un homme qui sort de chez son médecin, qui vient d'apprendre qui n'est pas malade. Ce qu'il craignait, et qui croise un de ses grands amis, à qui il dit, enfin, pas vraiment un de ses grands amis, une connaissance, en fait, c'est ça. C'est ça aussi qui fait tout le charme, je trouve, toute la légèreté du livre. Et tout à coup, il lui invente qu'il est effectivement malade et que voilà, il va faire une fête pour essayer de conjurer un peu cette grande tristesse et cette annonce de condamnation. C'est déjà quand même extrêmement drôle. Et puis ça continue comme ça sur une sorte de petite comédie humaine comme ça à quelques acteurs avec quelques idées géniales. Même Myrène, t'en as déjà cité quelques-unes, mais des excusards, c'est effectivement assez drôle. Et puis il y a aussi toute cette réflexion sur la valeur de l'insignifiance aussi dans la drague, par exemple,
qui
explique que quand un type brillant essaye de séduire une femme, finalement, plus il en fait, moins ça risque de marcher.
Parce que ça la met en compétition.
Voilà, plus il tente de l'impressionner, plus elle se sent en compétition, alors qu'en fait, l'insignifiance peut libérer la personne qui est séduite.
Mais c'est pas totalement faux.
Et que ça peut la rendre insouciante et accessible, et donc la conclusion de ces personnages, c'est qu'il faut surtout ne pas briller, et que l'insignifiance est la vraie voie. Il y a comme ça une nocivité.
C'est amusant qu'il rapporte à une femme, quoi.
Oui.
Donc une femme doit continuer à être insignifiante pour pouvoir...
Je pense que ça peut s'adapter.
Il parle des hommes, là.
Ah oui.
Tu dis ça.
Donc les hommes doivent être insignifiants pour pouvoir séduire les femmes, mais je crois que c'est vice-versa, c'est-à-dire être suffisamment insignifiant pour faire exister l'autre, quoi, finalement, ce qui pourrait être une belle définition de la séduction. Voilà, il y a des définitions comme ça du narcissisme, il y a l'intervention de Staline, il y a ce vieux monsieur qui veut faire une fête pour son anniversaire et qui dit, voilà, le bonheur d'être fêté l'emportait chez lui sur la honte de vieillir. Je trouve ça absolument génial. Et c'est comme ça une suite de petites théories légères, assez fortuites, assez amusantes et très absurdes aussi, portée sur le monde, une sorte d'ironie bienveillante. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre.
Bravo. Quelle belle description.
Qu'est-ce qu'on peut dire après ça, Guy, hein?
Mais moi, je trouve déjà, première chose, c'est très difficile de ne pas aimer ce livre. Je pense qu'il faut vraiment le vouloir pour pas aimer. C'est très court.
Est-ce qu'à un moment, ça ne vous gêne pas que ce soit aussi léger malgré tout?
Mais non, mais l'important, c'est aussi pages, qu'il y ait une œuvre derrière, quoi. Je veux dire, ça relance toute son œuvre, au final.
Moi, c'est ce que...
Ça ne relance pas grand-chose, finalement. C'est non, un résumé de son œuvre, mais...
Moi, j'ai lu l'insoutenable légèreté de l'être... quand j'avais le temps de le lire. Non, mais quand j'avais l'âge de le lire, moi, ce qui m'a plu dans ce bouquin, comme je disais, donc c'est très difficile de ne pas l'aimer parce que c'est très court, c'est facile à lire, c'est pas. Enfin, c'est facile à lire, quoi. Il n'y a pas des formules complètement alambiquées. Et ce qui m'a plu dans le bouquin, c'est exactement ce qui m'a déplu dans le film dont on a parlé précédemment. C'est-à-dire que tu sens ici. Il n'a rien besoin de prouver, en fait.
Mais c'est peut-être parce que c'est un vieux monsieur. C'est un peu comme Alain Resnais. Quand on est jeune, on doit se pénétrer d'un air sérieux pour prouver qu'on est intelligent. Quand on est vieux, on s'en fout, je crois.
Et si tu me laissais terminer mon raisonnement, pas impossible qu'on arrive exactement à la même conclusion. De fait, le gars n'a plus rien à prouver. Donc, il se fait un petit plaisir, comme ça, c'est sucré. Il te donne des petites pistes et des petits trucs comme ça, des petites anecdotes. L'anecdote de Staline et Kalinine, la manière dont elle est construite tout au long du bouquin. C'est assez génial. Là où dans le film il y avait une intensité, tu sentais un besoin de montrer ici, c'est complètement différent. Et effectivement, il y a du vécu derrière, il y a toute une vie derrière, il y a toute l'expérience, et ça donne en même temps une espèce de retour à l'humilité, quoi, clairement. Mm-hmm. Et je trouve qu'il n'y a pas cette humilité dans le film, pour revenir à ça, alors qu'ici elle en est pleine, quoi. Le gars dit ok. Voilà, ça, regardez ce que j'ai à vous proposer, c'est 140 pages. Il pourrait écrire de manière plus dingue, mais il le fait pas. C'est juste chouette, c'est gai à lire, c'est agréable, et t'apprends des petites choses sur la vie et tu te fais, oui, c'est vrai en fait, j'avais pas pensé à ça. Mais t'as pas l'impression que les démonstrations sont appuyées par des. Enfin, t'as l'impression juste, oui, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Et pourquoi ? Parce qu'il a 85 piges, et qu'à 85 piges, on a vécu un paquet de trucs, surtout quand on est Milan Kundera. Et donc, moi, c'est ce qui m'a plu dans le bouquin. C'est que tu lis ça et puis après t'es juste voilà, t'es happy, quoi, t'es content.
Xavier Dolan à 85 ans, il sera hilarant, tu sais.
Mais non, mais il sera revenu de plein de choses, et c'est pour ça que j'ai pas descendu le film de manière complètement intransigeante. C'est que je trouve qu'effectivement il dit des choses, et il dit les choses de son âge avec l'intensité de son âge et avec l'intensité de ce qu'il a encore à démontrer au monde ici. Et moi je suis plutôt quelqu'un qui je suis vraiment sensible à la littérature de vieux, et c'est vrai. Non, mais c'est vrai, des gens comme Cavana, etc., qui écrivent des
Anthony
par exemple. Uh-huh. Je dis quelque chose d'intelligent, mais c'est une blague ou quoi? Je crois que ça arrive souvent. mais un mec comme Cavana, quand il écrit, c'est l'héritage, je pense, son bouquin. Des gens qui écrivent avec le recul de toute une vie, moi ça me touche. Je suis hyper sensible à ça parce que effectivement, voilà, ça me libère, ça m'ouvre des perspectives sur le futur, et je me dis bah finalement, voilà, quand je vais grandir, il y a encore des choses intéressantes à vivre, et j'ai pas vécu tout ce que j'avais à vivre quand j'avais 25 ans et que j'étais à fond, si tu veux. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a touché. Je trouve que le livre est pas extraordinaire, hein. C'est pas un truc qui va rester, je pense, dans les annales de la littérature, mais c'est juste, c'est chouette. Tu te sens pas plus bête après, au contraire, t'as passé un bon petit moment, c'est pas trop long. Voilà, top.
C'est émouvant quand tu te livres, Guy. Tu devrais t'ouvrir plus souvent dans cette émission.
Ah oui, tu devrais m'interrompre moins souvent aussi, alors quand je vais lire.
Meurs. Laurent.
Oui. Non, moi je suis juste. J'ai tout à fait aimé. J'ai juste des réserves par rapport au. Ouais, à la légèreté du truc. C'est 140 pages avec des caractères pour malvoyants. J'avais vu une interview de Xavier Dolan où on lui ressortait le fait « Ah, vous avez 25 ans, déjà, toute une filmographie derrière vous. » On lui mettait un peu de nouveau ça sous le nez. Il disait « Bah oui, bah écoutez, j'espère surtout que dans 20 ans, je serai autre chose que ça, quoi. Que là, j'occupe un créneau, les réalisateurs de 20 piges, j'ai de la chance qu'il n'est pas fort occupé. » Donc Milan Kundera, c'est un peu ça. Il occupe le créneau des vieux écrivains, quoi, qui n'ont plus grand-chose à prouver et qui peuvent se permettre des petits bouquins comme ça, un peu presque inoffensifs, très légers, qui disent des choses, qui voilà, ils racontent des choses. Il y a du fond et tout ça, mais qui peuvent passer pour très très frivole, comme ça, ça tient. Je sais pas pourquoi il est sorti d'abord en Italie. Est-ce que c'était par exemple pour ramener au côté farce du truc, au côté.
Ouais, c'était surtout pour prendre un peu de distance par rapport à la presse française qu'il a quand même souvent.
Égratigné.
Ouais.
Ah, mais pourtant, il venait de se faire coffrer dans la Playa, donc il a quand même les honneurs, la reconnaissance, il y vit en France.
C'est sans doute un petit coup de. Je sais pas, de dé en plus, comme ça, pour rajouter. Ouais.
Mais je sais pas, si tu prends la marche du monde globalement, enfin la marche de la civilisation, un bouquin comme ça, qui est en tête, c'est quasi une des meilleures ventes, je pense que c'est une des toutes meilleures ventes du moment. Je veux dire, c'est au niveau, c'est un petit peu en dessous de Musso et de sa joyeuse compère.
Je pense qu'il les a dépassés.
Oui, voilà. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Je veux dire par là, c'est que ça rend accessible au plus grand nombre, finalement, des théories qui sont des théories qui font plutôt avancer le monde dans la bonne marche.
Une certaine élégance, oui, c'est ça.
Il dit pas grand-chose, à part que le monde est vain, il n'est qu'une représentation.
C'est quand même plutôt subtil, c'est pas bête.
Oui,
je dirais, moi, c'est plutôt réjouissant qu'un bouquin comme ça occupe la tête des ventes, de la même manière qu'un SL, par exemple, qui fait un petit bouquin en 32 pages et qui cartonne au niveau. C'est plutôt quand même une bonne nouvelle, quelque part.
Mais tout
c'est
à fait.
Plutôt réjouissant.
Mais oui, mais oui.
Myriam, Isaline lève le doigt.
Oui, tu peux parler, Isaline. On parle du fait que c'est parce qu'il a cette vieillesse et ce succès derrière lui qui peut se permettre d'être léger, tout ça, mais en fait, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vieux écrivains qui sont complètement enfermés dans leur truc et qui ont du coup des discours super pontifiants. Et je trouve que vraiment, c'est à souligner, c'est qu'ici, c'est quand même une œuvre qui n'a cessé de professer la légèreté et qui le fait jusqu'à la fin.
Oui, mais donc alors, tu n'es pas surprise non plus.
Non, bien sûr, mais par exemple, Kundera, il adore Gombrowicz, qui est un écrivain polonais du XXe siècle, et il est fasciné par cette idée que Gombrowicz a eue, qui est assez géniale. Il en parle dans son essai L'art du roman, un essai qu'il a publié en 1987, je crois. Et cette idée, c'est que le poids de notre moi, de notre personnalité, dépend en fait de la quantité de population sur la planète. Donc par exemple, Gombrowicz, il dit que les philosophes de la Grèce antique, comme Démocrite, représentait 1/400 millionième de la planète. Brahms, par exemple, 1/1 milliardième. Gombrowicz, donc, qui est né en 1904, disait qu'il représentait 1/2 milliardième. Et donc, ce que Kundera retient de ça, c'est que, selon cette arithmétique un peu savante, le poids de notre moi, donc de notre vie intérieure, devient de plus en plus léger au final, au fur et à mesure que la Terre s'agrandit. Et que donc la vie est une course presque fatale vers la légèreté, et qu'on mourra forcément plus léger qu'on est né. Et du coup, pourquoi prendre nos existences au sérieux finalement? Tout est absurde, autant en rire. Et je trouve que voilà, c'est une idée qui préside depuis toujours à la littérature de Kundera, avec des titres comme la plaisanterie, le livre du rire et de l'oubli, l'insoutenable légèreté de l'être, et surtout, risibles amours. Et je pense que c'est très beau.
Attends, silence. Le silence après Isaline Parisi, c'est encore Isaline Parisi.
Non, le silence après Milan Kundera, hein, je n'ai fait que...
Non, tu es une œuvre totale, toi aussi, Isaline. Alors, moi, je mettrais 8 sur 10, pour ma part, la fête de l'insignifiance.
Un 6.
Okay. Je vais mettre 8, oui.
Mais Aline ?
8.
Et la fête de l'insignifiance est parue chez Gallimard. Alors le disque dont on parle en ville en ce moment, c'est Everyday Robot de Damon Albarn. Déjà, parce qu'il y a Damon Albarn. Ensuite, parce que pour une fois, il est tout seul. Et ça fait déjà deux très bonnes raisons de s'y intéresser. Damon Albarn, faut-il le rappeler, c'est la petite gueule d'amour qui se cachait derrière Blur, enfin qui ne se cachait pas du tout derrière Blur en fait, et qui a revêtu un masque de singe chez Gorillaz. Il a aussi filé un coup de main à plein de monde, des gens parfois supposément très éloignés de son univers comme Amadou et Mariam ou Bobby Womack. Ici donc, pour la première fois en solo, il promet un disque 100% honnête, et le monsieur est visiblement un peu patraque parce qu'il a livré un album assez mélancolique, un peu plus vieux, même quand il langue du côté musique du monde de la force. Difficile aussi, hein, ici, de dire du mal d'Everyday Robots, difficile de ne pas l'aimer, mais je crois difficile aussi de s'emballer à perdre haleine pour cet album. Laurent, chef des pages musique de Focus, quel est ta critique de cet album?
Et moi, c'est justement ça qui me plaît, c'est dans le... pas dans le fait qu'on ne puisse pas s'emballer complètement pour le disque, mais c'est le... la manière dont, dont il arrive aussi. C'est... Enfin, tu l'as rappelé, c'est quand même la grande gueule de Blur, un groupe qui a énormément compté, enfin, y compris dans, enfin, dans l'histoire de la musique en général, quand c'était un peu une réaction grunge à l'époque, la Britpop, et donc Blur a porté tout ça avec Oasis, et c'est un des seuls groupes finalement qui s'en est vraiment sorti en tirant par le haut, puis il est arrivé avec Gorillaz, qui a... enfin, qui a eu le génie d'inventer un groupe virtuel au moment même, au début des années 2000, où la musique se dématérialisait, quoi. Un côté comme ça prophétique au truc. Donc il a quand même toute une aura, pardon, tout un truc autour de lui qui fait que cet album solo, ben, on l'attendait depuis extrêmement longtemps, et il a toujours un peu tourné autour. Et donc là, il arrive enfin, et il arrive comme ça un peu sur la pointe des pieds. Je crois qu'il n'a pas fait énormément de promos, alors qu'aujourd'hui, n'importe quel disque de ce calibre-là, il y a mille... enfin, des réunions marketing dans tous les sens. Ici, il a déjà lâché que 2-3 titres en single. La plupart ont déjà été joués dans les concerts, donc les gens l'ont déjà entendu. Et il sort comme ça un peu... Il a donné des interviews, mais un peu partout. Donc, il n'y a vraiment aucun secret, aucune exclusivité autour de ce truc.
Oh, ça fait du bien, ça.
Ça fait du bien,
ça fait du bien quoi. Et il arrive avec un disque qui en plus s'écoute en effet comme ça. Il est très, très posé, très mélancolique, il ne fait pas de bruit. Il est assez, moi je suis assez apaisant. Alors il y a tout le côté après un peu gloomy, un peu triste, un peu mélancolique du truc. Mais c'est vraiment ce qui fait son charme, je trouve. Enfin, on pourra, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà, il y a tout le côté bon, autobiographique, c'est vrai, du truc, mais qui finalement est très, très parcellaire, quoi. Ça n'arrive que sur un ou deux titres. Sur le titre, par exemple, Hollow Pounds, ce qui fonctionne un peu comme un album photo, comme ça, où il feuillette un peu ses souvenirs. Mais le reste du disque, bah, là aussi, pour un disque solo, c'est encore un disque qui se raccroche pas forcément énormément à lui, mais qui tient plus du commentaire un peu social, pour être un peu pompeux, mais voilà, sur qu'est-ce que vivre en 2014 dans une société connectée, les ordinateurs, tout ça. Et c'est fait de manière absolument pas pontifiante. Il se retire pas du tout du propos. La masse, il s'engage complètement. Il dit que lui aussi, bah voilà, il est aussi connecté aux machines, et avec tout ce que ça peut avoir de déshumanisant et tout ça. Donc enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de raisons de rentrer
toi, tu comprends les paroles.
Bon, il y a 2-3 paroles comme ça voilà, bah, ou même les titres Everyday Robots ou Photographs. C'est comme il y a ce titre Photographs dans lequel il y a un sample de Timothy Leary, hein, le fameux docteur Leary, qui dit un truc du genre be aware of the photographs you are taking now. Donc soyez conscient de la photo que vous prenez, vous êtes en train de prendre. Alors qu'aujourd'hui tout le monde en prend avec son GSM tout le temps. Enfin, on prend des photos à chaque mois. Donc là, il rappelle, bah oui, mais jusqu'à pas longtemps, en tout cas, quand tu prenais une photo, c'était un acte, si pas important, en tout cas qui signifiait quelque chose. Aujourd'hui, c'est devenu complètement banalisé. Alors il dit pas c'est bien, c'est mal. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas forcément il y a 20 ans, quand il a commencé Blur, par exemple.
On comprend pourquoi tu es chef des pages musique, hein. Vraiment, vrai. quand on t'écoute. Parce que c'est très, très difficile, en fait, de critiquer un album. Et tu te penches vraiment avec sérieux sur les intentions des gens. Parfois, moi, je leur prête aucune intention. Ils trouvaient que ça sonnait bien, que la musique était jolie.
Mais là, voilà, un disque, il y a quelque chose à dire, donc c'est assez facile, finalement.
C'est vrai que c'est toujours sur ça qu'on cale, en fait, hein, dans Focus Store.
Ouais, on devrait arrêter de parler de disques. Hein.
Non, c'est ça, mais... enfin, ouais, je sais pas. Je sens qu'ils alignent, je te sens dans le starting block là, par rapport à Damon.
Absolument pas. Non, c'est vrai que moi, par exemple, en tant que quelqu'un qui doit lire beaucoup, je cherche toujours un peu ce genre d'album qui va me permettre d'écouter de la musique, parce que voilà, j'aime bien faire les deux. En lisant.
Ouais. Ouais,
et c'est très difficile, en fait, parce que la plupart des musiques m'éloignent des livres que je lis. Et en fait, je trouve que là, c'est pour le coup un disque qui peut s'écouter en soi, et puis à la fois qui peut offrir comme ça une qualité d'univers et de concentration qui va me faire rentrer dans l'univers voilà, que je suis en train de lire. Et je suis franchement assez cliente du disque, du coup. Je trouve que chaque titre est comme ça, une espèce de micro-ballade un peu aérienne et hypnotique. Alors lui, il parle de happy sad, hein, donc voilà, la tristesse joyeuse. C'est quelque chose d'assez lancinant. Je trouve qu'il y a beaucoup à voir avec la mélancolie aussi. Donc forcément, ça me touche beaucoup. Moi, j'avais rapidement accroché au single qui avait fuité. Je trouve qu'il se dégage du disque une sensation comme ça d'extrême naturel, voilà, des rythmiques assez fascinantes parce qu'elles sont à la fois très simples mais à la fois aussi assez travaillées, quoi, assez multicouches comme ça, et qui font un peu oublier le travail qu'il y a derrière. C'est pas un disque qui envoie, effectivement, qui veut chercher à impressionner pendant des heures.
Qui est pas du tout dans la frime, quoi, alors qu'il est quand même né comme ça aussi, Damon Albarn avec Blur, où c'était les grandes gueules, et ici, c'est... Ben voilà, on est beaucoup plus loin, on est de 20 ans plus tard, mais c'est quand même gai et rafraîchissant de voir un mec comme ça qui a une telle stature venir avec un disque qui est très très posé, très dans la retenue, quoi.
Et qui dégage vraiment une belle évidence, je trouve, en tout cas. Et c'est vrai que Albarn, il disait dans Les Inrocks, je crois que en fait il avait peut-être réussi à pondre le disque et en tout cas des chansons qui étaient taillées pour sa voix, parce qu'il dit voilà, j'ai pas une voix assez exceptionnelle. Effectivement, il a quand même, je trouve, une très belle voix avec un timbre très reconnaissable, mais effectivement c'est pas une voix qui peut se permettre des envolées extraordinaires. Et là, je trouve que justement c'est des chansons qui mettent en évidence quand même assez bien c'est cette voix qui est quand même très belle, très dénudée et très très humaine aussi dans ses inflexions, et qui vient du coup contredire un peu le propos robotique du disque, ou en tout cas ce qu'on aurait pu en craindre. Voilà, et je trouve qu'il y a une belle qualité de maturité et de consistance dans sa manière de chanter sur ce disque là voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce disque.
Guy?
Oui.
Coup de cœur.
Oui, mais moi, bon, je veux dire que Damon Albarn, ça fait partie des cinq personnages au monde que je souhaiterais être si je me réincarne un jour.
Je comprends.
Non, mais vraiment, j'étais au concert de Blur l'année passée à Werther.
C'était incroyable.
C'était exceptionnel. Là j'étais aussi, là, et pendant tout le concert, je me suis dit, mais pourquoi je suis pas lui? Pourquoi moi je suis moi? Pourquoi je suis pas cet homme-là? Pourquoi est-ce qu'un jour je peux pas, ne fût-ce qu'une journée, être Damon Albarn? Et je voudrais tellement, pour avoir cette espèce de street crédibilité entre guillemets, à tout niveau, en même temps avoir la classe, en même temps être, il avait du punch, il était encore, je sais pas, il avait une espèce de, tu sentais un plaisir dans le jeu, c'était gay, ça doit être top d'être lui, quoi. Ça doit être top de se dire voilà, quoi que je fasse, en fait bah il y a toujours j'ai toujours mon génie qui est derrière moi et qui m'aide à entreprendre tous les projets que j'ai envie d'entreprendre dans les trucs les plus improbables du monde, et je peux me permettre plein de choses et j'ai quand même du talent un peu partout. Et ici il fait un album solo qui est effectivement, et je l'écoutais en lisant le Kundera justement, et je trouvais qu'il y avait un rapport entre les deux.
Ah oui.
C'est clairement, tu
avec
sens
le
un mec
film Her, par exemple, qu'on a le dernier Spike Jones dont on a parlé l'autre jour, il y a ce côté aussi par rapport aux nouvelles technologies un peu, excuse-moi.
J'aurais
pu être la BO, c'est vrai. T'en parlais dans ton papier.
Ouais, en effet. Mais moi je voyais plutôt le lien entre le fait que Damon Albarn, là maintenant, il doit plus montrer à qui il doit encore montrer que c'est un génie de la musique. Je veux dire qui en doute encore? Il a 45, il a entre 45 et 5, il a un truc comme genre 45 ans. Il a révolutionné plein de trucs, Gorillaz, etc. La Blur, le dernier album de Blur, Think Tank, en 2003, c'est un album exceptionnel. Et justement, il y a certains aspects de cet album-ci qui pourraient être liés justement à Think Tank dans l'espèce d'apaisement comme ça, dans l'espèce de petite dans les mélodies qui sont finalement très simples et qui disent plein de trucs en même temps. Et donc, je trouve que cet album, c'est vraiment un album de la maturité dans tout ce que c'est bateau. C'est bateau de dire ça et je déteste cette expression, mais en même temps, c'est une maturité qui est chaque fois un retour à la simplicité, en fait. Parce que finalement, voilà, une fois que t'as prouvé ce que t'avais à prouver, après, tu peux te concentrer sur l'essentiel qui est de dire ok, qu'est-ce que maintenant j'ai à dire, quel est le plaisir que j'ai envie de donner à la société et aux gens qui vont m'écouter. Et voilà, et c'est un petit plaisir cet album. C'est pas un truc qui en jette, c'est pas un truc effectivement, il n'y a pas d'esbrouf là-dedans, il n'y a rien de dingue, c'est juste des chouettes chansons, en fait.
Ouais, et qui sont de son époque, quoi. Enfin, je vais revenir avec ma vieille marotte, mais c'est vrai que voilà, un mec qui est là depuis 20 piges et qui fait un disque qui sonne complètement contemporain, alors qui révolutionne rien. Rien. Enfin, c'est pas non plus une révolution musicale.
Mais c'est juste
musicale,
en phase. Mais c'est juste en phase avec plein de choses. C'est en phase, et tu sens qu'il se fait plaisir. Et puis voilà. Et je pense que au-delà de ça, je pense qu'il y a la coolitude maintenant. C'est justement d'être humble et d'être et justement de pas en faire trop parce que c'est démodé d'en faire trop finalement. Et ça n'a plus aucun sens. Et tant mieux quelque part. Et puis ça reviendra peut-être. Et peut-être qu'un jour il y a des gens qui vont faire des trucs complètement extravertis à tout niveau et que ce sera formidable. Là pour le moment on en est là, et un livre comme celui de Kundera et un album comme ceci, c'est les petits plaisirs de la vie, et tant mieux finalement. Et moi je trouve ça très chouette.
C'est le retour à la légèreté professé par Kundera en fait, cet album. Hein.
Ouais. Diggy, avant de clôturer le sujet, quels sont les quatre autres personnes de ton top 5? Moi je suis assez curieuse.
Je sais pas, moi il y a des gens comme Tom York, Edouard Baird, Penélope Cruz. Je voudrais un jour Penélope Cruz pour pouvoir me caresser. Et les autres, bah écoute, je te ferai un top 5 plus abouti la prochaine fois qu'on
s'entendra. Mais c'est pas mal, je trouve que tu as des bons modèles, des bonnes références. Je suis d'accord, je valide. Le bulletin de ce disque, pour moi, je lui mettrais 7. Et toi, Laurent?
On a mis 8 dans le focus.
D'accord.
Je vais mettre 7, ouais.
7, et Isaline
8.
Enfin, une série pour terminer Mad Men saison 7, la dernière, qui vient de débuter aux États-Unis, qui sera coupée en deux pour bien faire durer le suspense. Mad Men, c'est le dada des intellos, des fashionistas et des nostalgiques d'un temps où les femmes savaient se tenir. C'est pas la série la plus facile à apprivoiser qui soit. D'ailleurs, on connaît encore très très mal son personnage principal, qui ne se laisse pas facilement approcher. Don Draper, c'est ce fameux publicitaire surdoué qui assiste aux mutations de son temps, qui va peu à peu perdre pied. C'est pas vraiment une série sur la pub, c'est plutôt une série sur la solitude. Et cette saison 7, c'est vraiment son crépuscule, son chant du cygne, son baroud d'honneur ou de déshonneur. Deux épisodes ont déjà été diffusés au moment où je vous parle. Ils sont à l'image du reste, totalement sublimes, complexes, exigeants, un brin erratique. On ne sait jamais vraiment où on va, mais on y va. Et aujourd'hui plus qu'hier, avec émotion, Guy, toi tu n'as rien vu du tout.
Alors, tu vas nous expliquer pourquoi, parce que c'est intéressant. Je suis censé être le spécialiste série du magazine, malgré tout. J'ai effectivement jamais vu une seule seconde de Mad Men, sinon le générique. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Ça m'a jamais attiré des masses. J'ai jamais eu l'opportunité. Ça n'a jamais été le bon moment.
Mais donc tu fais presque un rejet si tu n'as jamais vu une seconde.
Non, mais c'est parce que il y a eu au moment où ça aurait pu, il y avait plusieurs saisons à voir, ça n'a jamais été le bon créneau, ça n'a jamais été le bon moment, je regardais toujours quelque chose d'autre, et puis voilà, ça m'est toujours passé sous la jambe d'une part, d'autre part, je me suis toujours dit, bon, on ne sait jamais, en cas d'hospitalisation prolongée, pas pour un truc grave, mais pour, je ne sais pas moi, pour de l'eau dans le genou, ou...
L'appendicite.
Je ne sais pas si t'es hospitalisé deux jours, oui, t'as un problème au dos ou que sais-je, je me dis, voilà, je pourrais regarder Mad Men, donc je le garde sous le coude. Pour ce genre de situation. Et alors, dernier argument, c'est une série que toi tu aimes beaucoup.
Et donc
et à une période de ma vie, le fait que toi t'aimes beaucoup une série, en général, ça voulait dire qu'il fallait absolument pas que je la regarde.
Oh, c'est méchant!
À une période de ma vie! Ça a changé depuis. Mais non, c'était la période où tu parlais de Lost, où chaque phrase que tu au monde, tu devais la terminer par Lost. Et donc, et moi, j'aimais pas Lost à l'époque. Donc, voilà, t'aimais bien Mad Men, et je me suis toujours dit, bon, bah, ça va pas être terrible. Dans ce cas.
T'es vraiment une sous-merde, mon vieux.
Mais au-delà de ça, voilà, c'est tout ce que j'ai en dire, en fait. J'espère que c'est chouette.
Oui. Laurent, toi, tu n'as pas non plus embarqué.
J'ai tenté l'une ou l'autre fois, mais il faut savoir que...
Est-ce que toi aussi, quand je te dis quelque chose est bien, ça te tient complètement à distance ou je peux continuer à vivre?
C'est encore plus prosaïque que ça, c'est que dans mes souvenirs, la série passait à la télé le dimanche soir. Et quand on bosse chez Focus le dimanche soir, tu ne regardes pas la télé, tu fais autre chose.
Mais
parce que le lendemain,
tu regardes les séries à la télé, donc. Bah oui, tu vas avoir 40 ans, c'est ça. Enfin non, mais je.
Putain, voilà. Quand même.
Non, je sais pas.
Pas du tout.
40 ans, c'est pas si grave. Tu peux avoir 85 ans comme Milan Kundera.
Ouais.
Et le vivre bien.
Chaque phrase que tu écris pourrait être la dernière.
Et écrite en caractère.
Pour aveugle.
18. Mais voilà.
Ah, donc c'est ça! C'est bon, attends,
non,
moi je m'attendais
donc,
à
une critique.
Je préférais mes raisons quand même.
Oui, non, elles sont meilleures.
L'un ou l'autre épisode, et force est de constater que ça ne m'a jamais poussé à continuer le.
En même temps, tu regardais l'un ou l'autre épisode, tu prenais l'épisode 7 de la saison 3.
Voilà, c'est ça.
Et tu comprenais jamais rien. Évidemment.
Et en gros, j'avais l'impression de voir un épisode, une version, un télo d'un épisode de, je sais pas, de n'importe quelle série qui tourne autour des relations entre un certain cercle de personnes. Donc, que ce soit.
C'est toutes les séries, quoi. Une version,
oui,
un télo
mais non,
des séries.
Je sais pas, un truc genre Dallas, tu vois.
Tu connais ça, des séries qui tournent autour des relations entre un cercle de personnes, toi?
Genre,
non, mais il faut que tu me conseilles. Par exemple, quoi?
J'ai des trois titres. On va discuter après.
Bon.
Donc, Dallas, quoi. Une version Dallas dans les années 60 pour les.
Non, mais quoi,
c'est
un côté un télo pompeux, c'est ça qui
mais
te.
Mais pas pompeux.
Non, d'accord.
Mais en gros, si tu retires tout, ça, on en revient à ça.
Ok.
Voilà. Mais c'est ce que je te dis, c'est
avance,
parce que je suis bien obligé de tenir quelque chose.
Oui, non,
c'est une série dont j'ai vu deux épisodes.
On va peut-être laisser les gens qui ont regardé la série en parler.
Oui.
La légèreté a ses limites. C'est aussi un peu la leçon de cette émission.
Visiblement, je suis la seule à avoir regardé le début de la saison 7. Mais Isaline, je sais que toi, tu aimes cette série et tu la regardes.
Moi, je
pourquoi
l'aime. C'est vrai, j'ai pas vu la saison 7, j'en suis à la 6. Et ce que j'aime probablement le plus dans la série, c'est-à-dire cette profonde aura de mystère n'a pas disparu dans la saison 6, et c'est quand même déjà un défi en soi.
Mais mystère autour de quoi? Parce que.
Ben, autour de c'est autour de son personnage principal.
Parce que j'ai quand même regardé le résumé de 6 minutes des 6 séries.
Ah oui,
oui.
Ou en gros,
c'est
l'histoire des coucheries de
Don Draper. C'est vrai que sur le fond, il se passe pas grand-chose dans cette série, et justement, ce petit résumé qui circule sur le net, genre c'est les 7 saisons de Mad Men en 6 minutes.
C'est l'interprétation de la personne qui a monté ça.
C'est une suite d'événements comme ça, effectivement relativement anodin, mis bout à bout, et c'est pour moi exactement l'anti-Mad Men, c'est-à-dire que c'est une série justement précisément qui a fait sa particularité sur un rythme et sur une ambiance tout à fait particulière et tout à fait lente, effectivement. Donc c'est vraiment à rebours de toutes les séries qui marchent sur le cliffhanger ou sur l'espèce d'addiction à l'intrigue. Ici, c'est vraiment une addiction qui provient du temps que cette série met à étaler son intrigue et qui la rend profondément addictive.
Et il n'y a pas vraiment de fait saillant dans cette série.
Pas du tout,
c'est toi qui décides ce qui est saillant.
C'est vraiment une série,
pas.
Je trouve, qui se donne à vivre plutôt que à ressentir plutôt que parce qu'elle raconte dans les faits. Au final, on s'en fout, puisque le pitch en soi, d'ailleurs, est quand même extrêmement séduisant. C'est-à-dire que c'est des individus qui travaillent dans la pub et qui sont dans la pub comme dans la vie. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire taire leurs angoisses ou de remplir le vide de leurs désirs avec des promesses. Et finalement, c'est assez fascinant parce que ce métier est quand même très surfaciste où ils doivent être une irréprochable vitrine vis-à-vis de leurs clients. Au final, on les voit se débattre dans leur vie intime avec une profonde morosité et un profond vide existant. Et alors, tu l'as dit, Myriam, c'est une série effectivement où c'est très difficile de savoir quel est l'enjeu d'un épisode. C'est-à-dire que l'enjeu d'un épisode, ça peut être une vision, une espèce de fantasme, une vision qu'on a au sortir d'un ascenseur, un souvenir, et dont on se rend compte dans l'après-coup qui vont prendre de l'importance et qui vont faire sens. Et moi, je pense que Mad Men, c'est une très bonne série, comme le sont sans doute les très bons romans, parce que c'est une série qui n'explique pas. Voilà, et c'est pour ça que c'est une série qui continue à occuper votre esprit bien longtemps après sa consommation. Alors
ça va vraiment à l'encontre de tous les codes télé actuels.
C'est clair.
C'est incroyable que Matthew Weiner ait réussi à faire ça et à imposer ses choix. Moi, je respecte, je suis très admirative.
Et Don Draper, qui est quand même le personnage principal de cette série, qui est vraiment, pour le coup, extrêmement fascinant, qui a un charisme, une aura. Chaque fois qu'il apparaît à l'écran, on ne regarde plus que lui. Mm-hmm. Enfin, c'est assez fou. C'est vraiment le fantasme typiquement américain de la table rase, du recommencement, puisque toute sa vie est construite sur un détournement d'identité, on n'en dit pas beaucoup plus, mais placé sous le signe du faux, en tout cas de la mystification. Et c'est quelqu'un qui en fait son métier, c'est-à-dire qu'il va essayer de vendre du bonheur. Et donc, c'est une série qui nécessairement est dans les apparences. Et les apparences de cette série, c'est vraiment une de ses forces, puisque je trouve qu'elle dégage, chaque épisode dégage comme ça une fascination presque plastique qui est très triste et très sensuel à la fois. C'est vraiment une esthétique qui pour moi hésite entre la lumière d'un tableau de Hopper et toute la charge aussi des images des films d'Hitchcock, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose d'une mélancolie extrêmement esthétisée qui est assez, assez belle. Et il n'y a pas que cette lenteur et ce vide aussi. Hein. Je veux dire, Mad Men, c'est aussi des personnages extrêmement drôles, des répliques.
Ouais.
Voilà, il y a quand même des.
Des gens très ridicules aussi.
Et des gens très ridicules, et des habitudes, et voilà, et aussi une ironie quand même assez crasse à certains moments. Puis c'est toute une époque complètement extraordinaire. Hein. Je veux dire, on est dans les 60s new-yorkais.
Ouais, et puis 70s, et puis ça va se terminer de nos jours apparemment.
Ah, oui,
ça,
voilà.
Je suis très curieuse de voir comment ça va se passer.
On n'a pas tellement envie. Hein,
non. Ouais.
Donc c'est les silhouettes, et voilà, un dressing code complètement extraordinaire, les appartements, la moquette, les fauteuils, le bruit des machines à écrire, c'est aussi toute cette ambiance autour. Je trouve que c'est vrai que Winer a vraiment le souci du détail, le génie du détail. Voilà. Et puis c'est aussi tous les grands événements de l'histoire qui balayent aussi cette série et qui viennent s'imprimer comme ça en arrière-fond sur les personnages, c'est-à-dire qu'on assiste à la crise des missiles de Cuba, au Vietnam, à la mort de Marilyn Monroe, on voit comme ça tout à coup tous les personnages complètement éplorés, la mort de Kennedy,
c'est des gadgets,
le match de Mohamed Ali et Sonny Liston, mais non
pas
du
tout. Que c'est un homme qui est placé face aux mutations de son époque, qui ne la comprend plus, et cette espèce d'implacable machine à gagner se met à perdre à cause de ce temps qui lui file entre les doigts, qu'il ne maîtrise plus.
Et c'est des moments comme ça, où aussi la lutte pour les droits civiques, c'est des moments où les vies de chacun s'arrêtent, les vies avec leur grandeur et décadence à chacun, mais s'arrêtent, et où tout le monde finalement oublie ça et rentre dans son époque et communie presque dans les illusions qui sont en train de s'y écraser, de ce qui est en train de se finir dans cette époque-là. Et je trouve que c'est quand même aussi pour ça que cette série est tellement mélancolique, c'est que en fait c'est difficile à expliquer, mais moi elle me fait ressentir une mélancolie d'une époque que j'ai pas vécue, quoi. Et c'est assez fou. Et de nouveau,
la mélancolie, pas la nostalgie, hein.
Non. Ouais. Mais alors, de nouveau, souligner quand même aussi ce rapport au temps. Alors, c'est vrai, pour reprendre juste Kundera, encore une minute. Dans La Lenteur, il disait, pourquoi le plaisir de la lenteur a disparu. Et en fait, je pense qu'on retrouve ce plaisir de la lenteur dans Mad Men, avec aussi ce détail qui peut paraître complètement évident et idiot, mais c'est qu'on est avant le virtuel. Mm-hmm. Et donc, c'est toutes les relations humaines qui sont dépliées comme ça sur la longueur, avec... l'attente qu'on trompe en buvant, la prestance qu'on se donne en fumant une cigarette, la petite pièce qu'on laisse sous le paillasson pour prévenir que le mari est absent de l'appartement et que donc l'amant peut arriver. C'est aussi toute cette solitude énorme que les personnages ressentent quand ils ont quitté leur amant et qu'ils se retrouvent dans leur foyer où ça dysfonctionne complètement. Je pense qu'il y a vraiment aussi l'attente du coup de téléphone, tout ce temps d'avant le virtuel qui redonne vraiment une magie aussi à l'intrigue et à l'exposition des sentiments dans cette série-là.
Bon, eh bien, moi, je vais lui mettre 10 sur 10, parce que je trouve que ce serait une coquetterie de lui mettre 9. Pourquoi ? Pourquoi mettre 9 ? Et toi, les amis ?
Ouais, moi, je suis d'accord, 10.
Ah, c'est bien, ça. La saison 6 est en cours sur BTV. Elle arrivera dans quelques semaines sur la RTBF. Et en temps réel, c'est sur AMC aux États-Unis que ça se passe. Comme toujours, avant de se quitter, on fait un petit tour de nos derniers coups de cœur. Le mien n'est pas tout récent, mais on n'est pas obligé d'être toujours sur la balle. Hein. Ben non. C'est un roman, c'est un policier, même plutôt un détective. C'est L'appel du coucou de J.K. Rowling, qu'elle a écrit sous un pseudo, Robert Galbraith. Elle n'a absolument rien cherché à révolutionner, et c'est très bien comme ça. C'est un bouquin à lire pour s'endormir le soir dans son lit ou à la plage sur son transat, même si ça n'a vraiment rien de soporifique. C'est la mort d'un top modèle, son frère qui ne croit pas au suicide et qui va voir un détective lui-même issu du sérail, en tout cas d'une lignée quelque peu showbiz. Et l'air de rien, ça parle de plein de choses, de la célébrité, de la presse, de ses dérives notamment. C'est d'une efficacité redoutable, c'est paru chez Grasset cet automne et une suite est prévue en anglais au mois de juin. J'imagine que personne ne l'a lu autour de la table.
Nope.
Non. Eh bien, c'est sans doute pas une grande perte pour l'humanité, mais pour le plaisir, ça peut l'être. Laurent, ton coup de cœur.
Deux choses, je veux juste signaler qu'il y a le concert de Schoolboy Q et de Ishaya Rashad au Trix à Anvers, qui est un peu le concert hip-hop événement du printemps.
D'accord, ok. Voilà. Ça, pourquoi?
Moi j'ai entendu que les consonnes, là.
Oui.
Schoolboy Q, c'est un peu la bande à Kendrick Lamar et plus Kyra.
Okay.
Non, mais c'était après.
En moins abouti, mais Ishaya Rashad.
C'est un événement, mais on a quand même du mal à le prononcer.
Mais rien que pour Schoolboy Q, je pense qu'il y aura du monde. Voilà.
D'accord.
Et le deuxième, c'était juste le bouquin qu'a écrit Bernard Zécry. Bernard Zécry, c'est l'ancien rédac-chef des Un Rock. Mais c'est surtout ce mec qui dans les années, fin des années 70, était libraire à Dijon et puis qui s'est retrouvé à New York en partie en voyage et qui n'y est plus revenu avant plusieurs années et qui là a découvert le hip-hop, qu'il a ramené en France. La première tournée hip-hop montée en France avec la Zulu Nation et tout ça, c'était Bernard Zécry qui a mis ça en place. Après, il s'est retrouvé dans la bande à Bizot, donc... qui était cet aristocrate français qui est un peu le chantre qui est le chantre de la contre-culture aussi, qui a monté actuel, enfin voilà, toute cette mouvance là et c'est, ça parle d'une époque absolument passionnante voilà, où il se passait plein de choses, il y avait moyen de monter plein de choses, tout a l'air, il y a des histoires complètement rocambolesques, c'est plein de gouailles, alors ça s'appelle Le plein emploi de soi-même.
J'aime beaucoup le titre, hein.
Voilà, c'est aux éditions Kero que je ne connais pas.
Ah, moi je connais bien.
Eh bien voilà. Ah oui.
Oui.
Okay.
Oui. On en parlera en antenne.
D'accord. Une private joke avec toi-même. Ça va être chouette.
Oui, c'est ça. Très bonne maison d'édition. J'espère qu'elle m'écoute. Guy Verstraeten.
Oui, moi j'en ai deux. C'est grave ou pas?
Non, c'est très bien.
Moi d'habitude j'en ai pas. Alors là,
je profite-en.
Le premier, c'est un film qui va sortir. Ne me demandez pas comment je l'ai vu, mais je l'ai vu. Ça s'appelle Dans la cour de Pierre Salvadori.
Ah oui, oui, oui.
Et avec Catherine Deneuve. C'est pour ça que je demandais, ne me demandez pas comment je l'ai vu, avec Catherine Deneuve et Gustave Kervern. Mm-hmm. Et il s'avère que Gustave Kervern est absolument parfaitissime dans ce film. Il est fantastique.
Il est réalisateur plutôt, non, lui?
D'habitude, oui, il réalise les films avec Benoît Delépine, Mammout, Louise Michel et...
C'est Groland aussi.
Hein. C'est Groland, absolument. Ouais. Et là, il joue dans ce film un musicien qui décide d'abandonner la musique en plein concert et qui se retrouve gardien dans un immeuble parce qu'il a décidé de un peu s'abandonner, de s'oublier un peu. Et le film est très 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 juste, c'est en petite touche comme ça. C'est rien de dingue non plus, mais c'est vraiment très bien. Je vous le conseille. Ça va sortir très prochainement. Ça s'appelle Dans la cour. Et alors, le deuxième coup de cœur que j'avais, ça va être la reprise de Louis, la série de Louis C.K. Donc le 5 mai, Louis reprend pour une saison 4. Donc je me suis rematé les trois premières saisons que j'avais déjà vu X fois, mais je les ai revus encore, et c'est vraiment Louis, c'est vraiment dans mon top 3 des séries de tous les temps.
Lui aussi, tu es dans ton top 5 des gens que tu voudrais être?
Oui, mais oui et non, parce
en plus beau.
Non, c'est pas ça, parce qu'il a pas l'air d'avoir une vie aussi fantastique que ça, mais par contre, en termes d'esprit, en termes d'humour, moi je pense actuellement c'est le plus fort de tous les humoristes qui existent au monde, et je pense de loin. Il est vraiment exceptionnel, et dans Louis il y a des moments de stand-up où c'est purement des sketchs qui sont les espèces de prolongements de la série elle-même, où il y a une intrigue, où il joue son propre personnage quelque part, un peu romancé, etc. C'est doux, amer, c'est bien vu, c'est vraiment top. Louis, c'est top 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 à plein de niveaux. Il réalise, il produit, il écrit, il monte, il joue, voilà. Louis C.K., my hero number 2, et regardez ça, voilà ce que j'ai à vous dire. Si vous avez l'occasion, regardez-les, et la quatrième saison commence tout bientôt, j'espère qu'un jour. Mais le problème, c'est que les télés belges ou les télés francophones ne peuvent pas importer ce genre de séries, parce que les stand-up, c'est difficile à doubler, en fait, je pense, et comme nos chaînes ont la triste habitude de vouloir tout doubler.
Mais est-ce que c'est l'offre et la demande, hein? Le public ne regarde pas ce qui est doublé,
ouais, enfin, bah, je sais pas, je trouve ça très dommage plutôt. Parce que vraiment, en termes d'intelligence, en termes de regard sur la société, et en termes de sketch qui disent vraiment des choses tout en ayant des punchlines qui sont absolument exceptionnelles, c'est vraiment ce qui se fait de plus fort.
Oui, et il y aura 10 000 personnes qui la regarderont. Donc, c'est malheureux.
Oui, non, moi je suis allé, par exemple, Louis C.K., je suis allé le voir à Londres, il y avait 12 000 personnes dans la salle.
Ben voilà, les 12 000.
C'était à Londres, en effet, mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont capables de comprendre ça, même s'il faut le doubler. Enfin bref, voilà, anyway.
Mais est-ce qu'ils regardent la télé, ces gens-là? Je suis pas sûre. Pas sûr. Enfin, Isabelle.
Quelle tête de Guy, qui a l'air complètement abattu.
Alors, Guy voudrait être Damon Albarn, et moi j'aurais bien voulu dans une autre vie être Dominique.
Ah, oui, oui, oui.
C'est quand même un peu mon grand héros, mais je ne le dirai jamais assez. Alors, on connaît évidemment Dominica, le chanteur,
c'est
magnifique.
C'est ton Lost à toi, en fait.
c'est vrai.
Dès que je peux le placer. On connaît évidemment le chanteur magnifique. On connaît moins le chroniqueur de TGV Magazine.
Oui, 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 oui.
Parce qu'en fait, il a quand même tenu comme ça une chronique assez régulièrement depuis à peu près 10 ans dans TGV Magazine, mais aussi dans les Inrocks.
TGV Magazine, qui est le magazine du TGV. Voilà. Hein,
et on regrette du coup de ne pas prendre le TGV plus souvent. Et aussi dans Le Monde des Livres, en fait. il a aussi été chroniqueur, il l'est encore, je crois. Et donc, il y a les éditions Le Mot et le Reste qui ont la très bonne idée d'avoir réuni l'ensemble de ces chroniques comme ça sur à peu près 10 ans dans un volume qui s'appelle « Tomber sous le charme, hein, chronique de l'ère du temps » de Dominica. Et voilà, on retrouve à travers toutes ces petites chroniques à picorer vraiment un peu tous les soirs, toute la modestie assez travaillée aussi, mais tout le sens des images, toute la sensibilité, le sens des formules aussi et la grande curiosité de Dominica. C'est absolument passionnant, ça parle musique évidemment beaucoup, ça parle livre aussi, ça parle ça donne envie de découvrir beaucoup de choses. On sent vraiment qu'il utilise son vécu pour poser un regard sur ce qui se fait, et je pense que c'est vraiment la définition la plus belle d'un chroniqueur, hein, qui soit. Il y a aussi le journal de ses tournées, où il note par exemple chaque fois un petit peu le nombre de personnes qui sont dans la salle. Alors il y a des choses assez drôles, qu'il dit par exemple 300 personnes du moins au début. Et puis il y a aussi un exercice assez casse-gueule mais très réjouissant qui clôt le recueil, où il se prend au jeu de chroniquer lui-même ses albums, et c'est assez drôle et c'est assez juste. Donc Tomber sous le charme aux éditions Le Mot et le Reste par mon grand héros Dominica.
Et ben voilà. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Vous pouvez rallumer la radio. On se retrouve dans 2 semaines pour la 30e déjà. Merci de nous avoir écoutés. Lisez-nous dans Focus, publié toutes les semaines avec le Vif l'Express. Et d'ici la voyure, on vous salue bien bas. Salut tout le monde.
Salut.
Salut.